Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. Il a fallu du temps pour découvrir leur existence. Elles ont longtemps été perçues comme des ennemis à combattre et nous sommes en train de découvrir que bon nombre d'entre elles sont indispensables à notre survie. Les bactéries, c'est d'elles dont il s'agit, ne font pas que nous rendre malades. Elles peuplent en permanence notre tube digestif et notre peau. Une bonne partie d'entre elles nous rendent d'innombrables services et iraient jusqu'à influencer notre personnalité. Le microbiote qu'elles constituent est un sujet d'étude fascinant auquel de plus en plus de scientifiques s'intéressent. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Patrice Debré, professeur d'immunologie à l'université Pierre et Marie Curie. Il a été chef de service, directeur d'un institut de recherche à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Patrice Debré.
Bonjour.
Vous venez de publier L'homme microbiotique aux éditions Odile Jacob, un livre passionnant, très agréable à lire. Et nous sommes ravis que vous nous emmeniez à la découverte de ce monde encore trop méconnu des microbes. Les auditeurs peuvent vous adresser leurs questions via la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science, aujourd'hui, du nouveau concernant les recherches sur la présence d'eau sur la planète Mars. Sylvain Guilbeault, bonjour.
Bonjour Daniel. En effet, les grands écoulements que les scientifiques attribuent à l'eau liquide sur la planète rouge seraient en fait dus au dioxyde de carbone. Alors, est-ce qu'il y a ou non de l'eau liquide sur Mars ? On fait le point dans un instant avec le planétologue François Forget.
Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Stéphanie Texier et préparé par Camille Jusot et Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Patrice Debré, auteur de L'homme microbiotique aux éditions Odile Jacob, vous dites dans votre livre que l'ensemble des microbes sur Terre représente un poids à peu près semblable à celui des végétaux. C'est-à-dire qu'ils sont plus discrets que les séquoias, mais au moins aussi présents.
Absolument, un chiffre considérable à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur, puisque on dénombre presque 100 000 milliards de bactéries, sans compter bien sûr les champignons et virus, dans le corps humain.
Il y a des endroits sur Terre où il n'y a pas de bactéries ?
Non, on trouve des bactéries partout, y compris dans les grandes profondeurs quand elles se cachent.
Ouais. Donc partout, vous l'avez dit, y compris sur nous et en nous, hein, dans notre tube digestif, on a plus de bactéries que de nos propres cellules.
Oui, il y a plus d'humains, si on considère l'homme comme ça, il y a plus de bactéries dans l'homme qu'il y a de cellules humaines. Il y a environ 10 fois plus de bactéries qu'il y a effectivement de cellules du corps, et 99% des gènes de notre corps sont en fait ceux des microbes.
Ouais. Donc ça nous remet presque, nous, dans notre identité, un peu en question cette histoire.
Hein. Et nous sommes des chimères.
Voilà, c'est tout le propos de votre livre. L'homme est une chimère faite de ses propres cellules et aussi des micro-organismes qui le peuplent, avec lesquels il interagit de façon permanente.
Continuellement, pour le bien la plupart du temps, ouais. Mais aussi, nous le reverrons sans doute, pour quelques mal.
Et oui, pour le meilleur et pour le pire. Et on note un peu trop souvent le pire, alors qu'elles nous rendent aussi des services. En fait, on ne pourrait pas vivre sans elles, sans ces bactéries.
On ne peut pas vivre sans ces bactéries. Il y a celles qui nous attaquent en permanence. Pensons à tous les microbes qui nous ont décimés, en particulier aux épidémies d'Ebola. Et puis, il y a ceux avec lesquels nous vivons et par conséquent un énorme spectre de bactéries qui nous aident et qui nous aident à vivre.
Le microbiote est un sujet d'étude fascinant que les scientifiques commencent à peine à explorer. Nous allons nous y intéresser cet après-midi dans La Tête au Carré avec notre invité Patrice Debré. Pour lui adresser vos questions, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. L'eau et les reliefs de la planète rouge sont à la une de la science aujourd'hui, un nouvel épisode d'une longue série.
Today,
aujourd'hui, notre compréhension de cette planète vit une révolution. Mars n'est pas cette planète sèche et aride que nous imaginions. Dans certaines circonstances, nous avons découvert de l'eau liquide sur Mars.
Extrait de la conférence de presse de la NASA le 28 septembre dernier, la question de l'eau sur Mars est décidément un sujet à rebondissement. Depuis les années 2000, les chercheurs observaient des ravines à la surface de la planète rouge qu'ils pensaient dues à l'écoulement d'eau liquide. Mais des chercheurs français mettent à mal cette hypothèse dans une étude publiée hier dans la revue Nature Geoscience. Pour en parler avec nous, nous recevons François Forget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue au laboratoire de météorologie dynamique de l'université Pierre et Marie Curie et l'un des auteurs de cette fameuse étude. Alors, avant de savoir ce que vous prétendez dans cette étude, déjà décrivez-nous ces ravines, ces paysages martiens dont il est question.
Oui, c'est pas facile à la radio. Alors, si on est un terrien et qu'on regarde ces images, on voit, en fait, on a l'impression de voir un sillon qui aurait été creusé par un petit ruisseau sur les flancs de nombreuses pentes sur Mars. Mais on sait même qu'on a l'équivalent de ces choses-là sur Terre. Et même lorsqu'on voit l'équivalent sur Terre, on sait que c'est pas vraiment lié à un petit ruisseau, un petit écoulement. C'est généralement un flot de débris, de boue, un petit peu catastrophique qui a lieu quand il y a des grosses pluies ou la neige fond sur les pentes des boulis en montagne ou en Arctique, par exemple.
Donc, quelle largeur, quelle profondeur qu'on se figure ces ravines?
Ah bah ça fait des fois, on a jusqu'à 10-20 mètres de large. C'est pas très profond, mais c'est souvent bordé de ce qu'on appelle des levées. Donc, il y a des espèces de lèvres, des boulis qui font jusqu'à un mètre de haut, voire plus. Et puis, ça fait quelques centaines de mètres de long. Et des fois, c'est un peu... il y a des sinuosités qui caractérisent ces ravines.
Alors, on pensait que ces ravines étaient dues à de l'eau liquide, hein, qu'elles avaient été creusées par de l'eau liquide. Mais vous nous dites aujourd'hui, ou plus précisément hier, l'article que vous avez publié, que non, finalement non. Pour quelle raison?
Voilà, alors c'est un travaux qui ont été faits avec Cédric Pilorger, hein, mon collègue, de l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Et on dit non. Alors, il faut savoir, effectivement, depuis 15 ans, on a toujours pensé que c'était lié à l'eau, parce que, d'abord, ça ressemble beaucoup à des choses qu'on voit sur Terre, mais vraiment beaucoup, qui sont générées par la fonte de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, d'autre part, quand on analyse finement le comportement, la sinuosité, justement, la caractéristique des lèvres, etc., on pouvait démontrer qu'il fallait que l'écoulement ait les propriétés d'un liquide, ou alors d'une coulée vraiment lubrifiée par du liquide. Donc, sur cette base-là, le débat, c'était surtout d'où vient cette eau? Est-ce que c'est des climats passés il y a quelques centaines de milliers d'années? Ou alors des nappes aquifères qui jaillissent, des choses comme ça?
Qui pourraient jaillir actuellement? Alors, on l'avait envisagé?
Oui, on l'avait envisagé. C'était même la première hypothèse qui était apparue dès les premières découvertes de ces choses-là, il y a une quinzaine d'années déjà.
Et vous venez briser le rêve, en fait. Vous nous dites, ben non. Ça n'est pas de l'eau. Alors,
voilà,
c'est quoi?
Tout a commencé, en fait, il y a quelques mois, quelques années, on va dire même, lorsqu'on a commencé à surveiller certaines de ces ravines systématiquement, d'une année sur l'autre, et on a vu de nouvelles ravines apparaître, de nouveaux chenaux en particulier. Ah ouais. Alors, on s'est dit, bon, on va pouvoir mener l'enquête, on va voir quel est l'agent, comment ça se passe. Et on s'est rendu compte que ça se passait, en fait, à la fin de l'hiver, quand il fait très froid, jusqu'à moins 135, 140 degrés, et on peut pas du tout avoir d'eau. Par contre, on a vu qu'il y avait généralement quelque chose qui est très martien, pas très terrestre, mais très martien, c'est de l'atmosphère congelée, c'est-à-dire de la glace de CO2. L'atmosphère de Mars, c'est essentiellement du dioxyde de carbone. Donc, on avait de la glace carbonique qui était là. Et depuis, les observateurs avaient noté cela, avaient dit, qu'est-ce qui peut bien faire ça? C'était assez surprenant, parce qu'encore une fois, c'est des ravines qui font parfois 10-20 mètres de large, assez profondes, etc. Or, la couche d'atmosphère congelée qui se forme, elle fait quelques dizaines de centimètres d'épaisseur. Alors, donc, on est parti là-dessus et on a essayé de modéliser tout ça avec des modèles numériques d'environnement, enfin, je vais pas détailler, la thermodynamique, la conduction, tout ça. Et on s'est rendu compte, donc, avec Cédric Pilorger, que à la fin de l'hiver ou au printemps, lorsque le soleil revient sur ces pentes qui sont souvent sombres ou même dans la nuit polaire, le soleil chauffe la glace. Alors en fait, la glace est même très transparente, il n'y a pas de bulle d'air dedans, puisque l'air c'est du CO2, donc il n'y a pas de bulle. La glace est très transparente, ça chauffe par en dessous, ça chauffe le sable ou les roches qui sont en dessous. Et puis ça a tendance à chauffer la glace qui va pas fondre, hein, le CO2... Ça fond pas dans ces conditions-là, ça se sublime, c'est-à-dire que ça passe de l'état de glace à l'état gazeux.
À aucun moment il y a du liquide dans votre histoire.
Alors,
on a
c'est ça l'histoire.
De la glace carbonique, on a un moment des émanations de gaz parce que cette glace se transforme en gaz. Ouais. Et à aucun moment ces ravines n'ont vu passer un liquide.
Voilà, mais elles voient passer du gaz sous pression. C'est là toute l'histoire. Ouais. Quand cette glace chauffe, elle passe à l'état de gaz et ça augmente la pression dans les infractuosités et les pores du sous-sol. Et à un moment donné, tout ça casse, ça fait des flux de gaz importants. Ça déclenche une espèce d'avalanche et le tout est fluidifié par le gaz.
Sylvain Guilbeault.
Or, du coup, pas d'eau liquide, mais est-ce qu'il y a une contradiction entre cette découverte et l'annonce de la NASA en septembre dernier qui disait avoir trouvé de l'eau liquide sur Mars?
Voilà, il faut être très très clair. Ouais. Ces ravines avaient fait la une des journaux il y a 15 ans, il y a 10 ans, et là c'était quelque chose dont on a parlé au mois de septembre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que ce dont on a parlé en septembre, c'était ces coulées sombres que dans le jargon on appelle les recurring slope lineae, donc c'est des coulées sombres qui sont pas du tout pareilles, pas du tout similaires. Il n'y a pas de creusement, on voit juste une espèce de sable mouillé qui, jour après jour, semble s'étendre vers le bas des pentes. Donc, elle, visuellement, elle n'a rien à voir. Et en plus, elle se forme pas du tout au même endroit. Les coulées sombres, dont on a parlé en septembre, elles se forment au contraire sur les pentes les plus chaudes de Mars, à l'équateur, ou sous les tropiques, vraiment sur les pentes orientées vers le pôle, quand la température est de l'ordre de 0 degré Celsius, ce qui est chaud pour Mars. Alors que nous, nos processus, c'est en dessous de moins 100.
Est-ce qu'on peut faire, pour conclure, un point sur ce que l'on sait et ce dont on est sûr? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu de l'eau sur Mars un jour? Est-ce que les scientifiques ont tranché cette question? Et est-ce qu'il est possible qu'il y en ait encore aujourd'hui?
Très bien. On est sûr qu'il y a eu de l'eau liquide. On va parler d'eau liquide. De la glace d'eau, il y en a partout, vraiment. De l'eau liquide. On est sûr qu'il y a eu beaucoup d'eau liquide sur Mars autrefois, il y a très longtemps, il y a plus de 3 ou 4 milliards d'années. On voit là des traces de rivières, de lacs, c'est ce sur quoi enquête le robot Curiosity et de nombreux satellites en orbite. Donc ça, c'est une autre planète Mars qui a disparu il y a 3 milliards d'années, il y a très très longtemps. Et puis, est-ce qu'il y a encore de l'eau liquide actuellement sur Mars? Alors, peut-être. Par exemple, effectivement, les traces sombres dont on a parlé en septembre, c'est l'indice de la formation. Alors, peut-être pas d'eau pure, hein, bien sûr. Ce serait plutôt une eau saturée en sel, du sel qui accréterait de la vapeur d'eau et ferait une espèce de saumure extrêmement concentrée, mais peut-être propice aux bactéries. On ne sait pas.
Ouais.
Et puis, on peut aussi spéculer sur l'idée que profondément sous Terre, sur Mars, donc il y a beaucoup de glace. On sait que la température augmente quand on va en profondeur, un peu comme sur Terre. Et dans ce cas-là, on imaginait qu'à quelques kilomètres de profondeur, on pourrait avoir des nappes aquifères avec de l'eau liquide. Ah. Et là aussi, c'est pareil, on sait que sur Terre, ça, c'est propice à la vie. Bon, alors sur Mars, c'est difficile de chercher.
Je peux pas m'empêcher de vous poser la question, Patrice Debray, vous qui êtes notre spécialiste bactéries. On sait qu'on a envoyé de plus en plus de robots, parfois mal stérilisés sur cette planète. Est-ce qu'on peut envisager qu'on a envoyé sur cette planète des bactéries suffisamment solide et résistante pour être en train de coloniser cette planète qui peut-être n'en abritait pas.
En fait, vous avez deux questions, c'est peut-on en envoyer ou en a-t-on envoyé, et la deuxième, pourrait-elle vivre? Tout du moins au sens auquel nous l'entendons. Envoyer, je pense qu'on a pris toutes les précautions et puis quand même la traversée de l'atmosphère ou de la stratosphère devrait très vraisemblablement l'étier. Là-dessus, les bactéries devraient pouvoir s'acclimater à toutes sortes de climats et en particulier à des gaz très particuliers. On connaît ce type de bactéries qu'on appelle les archéobactériques qui vivent dans des conditions très extrêmes.
Donc, c'est possible. Ouais, c'est ça qu'on entend. Hein.
Je ne m'aventurerai pas jusque-là, mais ce n'est pas impossible.
Mais il faut de l'eau liquide pour la...
Il faut de l'eau liquide. Je pense qu'elles n'arriveraient pas à survivre juste dans un atmosphère non gazeux. Par contre, seulement gazeux.
Merci à tous les deux. On va continuer à parler avec vous, hein, Patrice Debray, de ces bactéries. Merci François Forget et merci Sylvain Guilbeault. À demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une étape cruciale vers la fusée réutilisable vient d'être franchie. La société américaine SpaceX a réalisé hier soir le premier atterrissage d'une fusée orbitale. Le premier étage du lanceur de la fusée, Falcon 9, a réussi à se poser en douceur à la verticale sur Terre après 11 minutes de vol, alors que le deuxième étage continuait son trajet pour propulser des satellites. Ce nouvel exploit technologique surpasse celui de l'atterrissage de la fusée de la compagnie Blue Origin, qui s'était déroulé en novembre dernier, à découvrir en images sur le Facebook et le Twitter de l'émission. L'électron, un des principaux composants de la matière qui nous entoure, vit au moins 66 000 iota années. Cette mesure très peu utilisée désigne l'équivalent de 1 suivi de 24 zéros. L'espérance de vie de l'électron est donc de 66 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'années, autant dire une éternité, y compris par rapport à l'univers qui n'a que 13,8 milliards d'années. Ces calculs ont été réalisés dans le cadre de l'expérience Borexino en Italie afin de tester le modèle standard de la physique des particules qui considère que l'électron est éternel. Les premiers chiens trouveraient leurs origines en Asie du Sud-Est et à l'époque où les loups et les chiens domestiques ont divergé. Une équipe internationale a étudié l'ADN de 58 canidés, 12 loups gris, 27 chiens primitifs d'Asie et d'Afrique et 19 autres races issues du monde entier. Résultat, ce n'est qu'il y a 15 000 ans que les chiens d'Asie du Sud-Est auraient commencé à se propager dans le monde entier. Si cette étude espère régler définitivement la question polémique de l'origine du chien, il reste encore à préciser comment ces chiens ont été domestiqués au contact de l'homme. Dans un instant, on part pour un grand safari dans le monde des bactéries avec le professeur en immunologie Patrice Debray. Nous attendons vos questions et vos réactions à la page de l'émission sur franceinter.fr.
J'attends. plein d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crient quand siffle le nickel au ciel? Ces drôles n'ont plus de densité. Ces drôles n'ont plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lanceurs de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Jungle embuée d'azur, aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de tes nuésures, chimères. Ces fantômes peuplent ta cité. L'enjardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boïc, boïc, et tes mouvements lancent de majesté. Boïc, 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 c'est la faute de tes passagers indigestes. Si tu penses, Boïc, Boïc, et tes mouvements lancent de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses à gauche, enfin comme un vieil éléphant. À gauche à l'est, enfin, enfin, comme un vieil éléphant.
C'était Feu Chatterton, Boeing sur France Inter dans La Tête au Carré.
Aussi fier que soit l'homme de son intelligence, de sa capacité d'adaptation et de sa rapidité à saisir les phénomènes de la nature, il n'est qu'un paralytique au regard du dynamisme inimaginable de la masse bactérienne qui l'habite. Pendant les 8 heures qu'il consacre au sommeil, de nombreuses générations de bactéries se succèdent à la fois sur lui et en lui. Indépendantes de ses rythmes, mues par une impulsion sans fin, les bactéries occupent le terrain, vivent, prolifèrent, comblent les vides, à une vitesse et avec un rendement qui défient toute évaluation.
Extrait du documentaire « Bactéries, nos amis » du réalisateur Éric Duvivier. On s'intéresse à ces bactéries, à leur interaction avec l'homme, avec Patrice Debré, auteur de « L'homme microbiotique » chez Odile Jacob. Patrice Debré, vous dites dans votre livre « Il y a 50 milliards de fois plus de bactéries que d'étoiles dans l'univers. » À chaque fois que vous donnez des ordres de grandeur, je crois qu'on a du mal à se les figurer tellement ils sont importants.
Considérables, oui, considérables. Mais je crois qu'il suffit, enfin je le rappelle, de dire qu'il y a 10 fois plus de bactéries qu'il y a de cellules du corps humain lui-même. Et ça vous donne, si vous voulez, une intensité de cette vie en symbiose, parce que c'est une association avec laquelle nous vivons.
Ouais. Ce monde bactérien, c'est quand même un petit peu la face cachée du monde vivant.
Oui, alors l'autre côté de la médaille, c'est ces microbes qui nous tuent. Vous savez qu'il y a encore 14 millions par an de décès dans le monde qui sont dus à des microbes, tout confondu, puisqu'il y a aussi bien les bactéries, les virus et les champignons, que ce sont une des premières causes de mortalité dans les pays à ressources limitées. Mais celles dont nous parlons aujourd'hui, ce sont les bonnes. Celles avec qui nous vivons, et je dirais même plus loin, celles avec qui nous ne pouvons pas vivre oui. Si elles ne sont pas là.
C'est pas qu'on s'en accommode, c'est qu'elles nous sont rigoureusement indispensables.
C'est du gagnant-gagnant. Elles vivent avec nous pour nous. Elles, à la fois, nous permettent de digérer nos aliments et sont importantes sur l'adaptation et la différenciation des réponses immunitaires. Mais en même temps, nous les nourrissons aussi.
Elles sont apparues, finalement, elles sont plus chez elles que nous. Elles sont apparues sur Terre bien avant nous, les bactéries.
Elles sont apparues bien avant nous. Sinon, on dressait une horloge, par exemple, et qu'on mettait l'humanité à 12 heures, elles apparaîtraient au bout de la près de deuxième heure et nous à la dernière seconde.
À la dernière seconde. Alors, elles arrivent deux heures après la création du monde.
Voilà.
Si l'âge de la Terre est de 12 heures. Alors, elles s'adaptent à chaque milieu et pour elles, l'homme est un milieu comme un autre, une pacification, une colonisation, comme vous l'avez dit, pacifique la plupart du temps.
Oui, c'est pas complètement un milieu comme un autre parce que elles s'adaptent à nous, elles se sélectionnent aussi. C'est une certaine sorte ou des certaines sortes de bactéries que nous avons en nous. Mais encore une fois, pas seulement des bactéries, il y a aussi de larges inconnus en ce qui concerne les champignons et les virus.
Alors, c'est une forme de symbiose et quand on vous lit, on se rend compte en fait que la symbiose, c'est pas une particularité, c'est pas une sorte de bizarrerie, c'est la règle générale. Les êtres vivants vivent les uns avec les autres.
La vie, c'est ça, la vie est faite pour rapprocher des communautés et pour qu'il y ait en quelque sorte une entraide. Avant parfois d'arriver à une sorte d'intégration complète des génomes.
Et vous citez des très jolis exemples, d'ailleurs, qui ne prennent pas forcément en compte les bactéries. Hein. Vous parlez des fourmis et des acacias qui s'unissent à la vie, à la mort. C'est un peu un rapport maître-esclave qui se voue entre les deux.
Oui, c'est une découverte assez extraordinaire. Celle de fourmis qui vivent avec des acacias, en fait, elle leur procure un bénéfice immense puisqu'elle dégage des odeurs qui éloignent les grands prédateurs. Au fond, les éléphants ne prennent plus les feuilles d'acacia. Et à l'inverse, les acacias les nourrissent, ces bactéries-là, de sucre très particulier.
Ces fourmis, là on est avec ces fourmis-là. Mais le lapsus est révélateur parce qu'effectivement, on a ce type d'interaction aussi avec les micro-organismes. Évidemment, ils sont plus parlants quand on parle d'organismes que l'on connaît, macroscopiques, mais on les retrouve à ces échelles-là aussi. Et on les retrouve aussi dans les abysses avec des interactions assez marrantes, avec des poissons qui ont dans leurs paupières des bactéries luminescentes.
Oui, il y a des poissons, quand ils dorment, ils ferment la paupière supérieure, mais dans la paupière inférieure, ils ont des bactéries phosphorescentes. Celles-ci sont donc cachées par la paupière supérieure. Et puis, lorsqu'ils se réveillent et qu'ils veulent éclairer les abysses, eh bien, ils soulèvent la paupière supérieure. Et à ce moment-là, ces bactéries déclenchent une sorte de phare qui leur permet de se diriger.
Ils ont inventé les phares, hein, ces poissons des abysses qui vivent dans la totale obscurité. Grâce à ces bactéries luminescentes, ils allument la lumière à volonté.
Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a d'autres sources de poissons qui ont intégré les 5 gènes qui déclenchent la phosphorescence au sein de leur propre génome. On passe donc d'une sorte de symbiose, une vie en commun bactéries et poissons, avec une intégration des gènes à l'intérieur du génome. Ouais.
Mais ça nous conduit à regarder l'évolution de façon très différente tout d'un coup. Si on imagine que les organismes s'associent jusqu'à s'interpénétrer, presque fusionner dans le cas que vous venez de décrire.
Oui, c'est la pression de sélection qu'avait vu Darwin en définitive, c'est probablement essayer au maximum de faire interagir les vivants les uns avec les autres. Cette sélection-là, elle est ce qui sert au mieux à l'un et à l'autre des deux partenaires.
Vous parlez du mécanisme de la reine rouge. C'est une très belle image. Décrivez ça pour dire à quel point il y a une sorte de course à l'évolution parallèle.
Oui, dans la reine rouge, Alice effectivement court et puis tout d'un coup elle s'arrête brutalement, elle tire la reine de cœur en l'occurrence par la main. Et elle lui
dans
dit,
Alice au pays des merveilles. Hein,
il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est plus je cours et moins j'avance. Et c'est cette image qui est reprise en fait par ceux qui s'intéressent à l'évolution pour montrer que l'évolution, en réalité, l'évolution de l'humanité ne bouge pas. Elle est d'une certaine manière stable. C'est-à-dire que les espèces... les espèces vivent les unes à côté des autres, les unes avec les autres, et le mouvement est à la fois continu mais stable.
Il y a à la fois une dynamique et à la fois un équilibre, et c'est cette dynamique qui maintient l'équilibre.
Absolument. Ouais.
On n'a pas du tout cette image quand on regarde le monde vivant, on a l'impression de quelque chose de figé, et là on se rend compte que tout bouge pour pouvoir rester immobile.
Voilà.
C'est très étonnant, hein, cette façon de voir. C'est assez nouveau, hein, cette façon d'analyser les choses. Alors, il est possible, vous le disiez pour d'autres organismes, mais il est possible aussi pour nous, les êtres humains, qu'une partie du génome de ces bactéries que l'on accueille et qui vivent en nous, au fil de l'évolution, se soit intégrée à notre propre génome.
Oui, alors on sait aujourd'hui qu'il n'y a qu'une toute petite partie du génome, 1,5% à peu près, qui est codée, c'est-à-dire qui donne lieu à des protéines, à des cellules. Et le reste est un immense territoire et dans lequel on trouve pour partie des gènes de microbes.
C'est-à-dire que notre ADN est fait en partie d'ADN bactérien. Ça paraît incroyable.
On presque fossilisé en nous et qui peuvent parfois, ou qui pourraient parfois réapparaître à certaines occasions.
Et vous parliez de l'homme chimère. On a vraiment ce sentiment jusqu'au cœur de nos cellules. On est constitué de nos rencontres passées avec tous ces microbes que nous avons côtoyés. On a presque l'impression que cette fusion, c'est le stade ultime. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand un organisme rencontre une bactérie, ils se font la guerre et puis petit à petit, ils s'accommodent l'un de l'autre jusqu'à finir par fusionner totalement.
Oui, il y a une aventure qui est celle des koalas, qui est une aventure qui se trouve en Australie. On s'est aperçu en fait qu'il y avait une partie des koalas qui continuait d'avoir une expression de virus et donnait des leucémies et mourait, tandis que les autres, au contraire, avaient complètement intégré le virus et vivaient avec lui.
Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'une bactérie peut nous aider ou nous détruire, mais la même bactérie. Et on a des cas similaires. Alors, c'est pas exactement pareil que le koala, mais vous racontez une anecdote assez étonnante aussi, l'histoire de Mary Malone, une cuisinière irlandaise immigrée aux États-Unis, qui a fait des ravages partout où elle passait, puisqu'elle était elle-même porteuse d'une bactérie.
Une des grandes découvertes en fait de Louis Pasteur, on est bien avant cet épisode que vous signalez de Marie Malone. En fait, Louis Pasteur voulait démontrer qu'on pouvait être porteur sain, et certains de ses détracteurs prétendaient qu'un certain virus n'était pas capable de donner lieu à une maladie. Et Pasteur l'a démontré en plongeant tout simplement la poule après l'avoir infectée dans l'eau froide, et à ce moment-là montré qu'en diminuant la température du corps, eh bien, le virus pourrait devenir nocif et entraîner une maladie. Autrement dit, en changeant seulement l'environnement, vous changez la nocivité du microbe.
Mais là, dans le cas présent, c'est différent. C'est-à-dire que c'est le même virus, c'est pas une question de température, c'est une question d'organisme. C'est-à-dire que chez différents...
Dans l'épisode de Marie Malone, elle vivait avec ce virus en permanence, et puis elle était capable de contaminer d'autres personnes, alors qu'elle-même s'était parfaitement adaptée à ce microbe.
Et vous dites aussi dans votre livre que nous sommes tous porteurs de bactéries qui sont considérées comme pathogènes. Alors pourquoi elles ne se développent pas? Pourquoi elles restent là en sommeil, sans bouger, juste un peu en passager clandestin?
Elles vivent en bonne entente, et elles vivent d'abord en bonne entente avec notre système immunitaire. En fait, le système immunitaire lui-même s'habitue à ces bactéries, il est continuellement stimulé par elles, et elles ont un rôle relativement positif en favorisant l'adaptation et surtout l'acquisition d'un certain nombre de défenses qui va leur permettre de lutter contre les autres, contre les bactéries méchantes. Autrement dit, les bonnes apprennent à notre système immunitaire à lutter contre les méchantes.
Mais on se demande précisément, en vous lisant, comment fait notre système immunitaire pour s'y retrouver? C'est-à-dire qu'il est entouré de tant de bactéries, et puis il arrive à sélectionner celles contre lesquelles il doit se retourner et laisser vivre les autres.
Au début de l'immunologie, on parlait du soi et du non-soi. Et puis on s'est aperçu qu'effectivement, le soi et le non-soi étaient compliqués, parce que où étaient les limites du soi dans la mesure où nous avions de l'étranger en nous? Et progressivement, la notion a changé et on est arrivé à celle du danger. En fait, le problème n'est plus le soi et le non-soi, mais le danger. Vivre avec un être, vivre avec une bactérie en l'occurrence, c'est vivre avec quelqu'un qui n'est pas dangereux. Et quand il est dangereux, le système immunitaire se met en route.
Drôlement bien fait, ce système immunitaire, pour évaluer le danger. Dans la suite de La Tête au Carré, nous allons nous intéresser plus particulièrement au microbiote et à ses effets sur notre santé. Nous verrons que les micro-organismes qui peuplent notre intestin peuvent avoir une influence sur notre comportement. Pour adresser vos questions à notre invité Patrice Debré, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Et Adèle passe nous saluer dans La Tête au Carré. Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Je suis un être humain, et mes cellules sont issues de l'œuf, résultant de la fécondation de l'ovule de ma mère par le spermatozoïde de mon père. Et toutes ces cellules qui ont proliféré, ça a fabriqué mon corps. Et moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je croyais que c'était ça, moi. Et puis j'ai découvert que non. Qu'en fait, ça, c'est un petit bout de moi. Et qu'il y a un énorme bout qui est constitué de bactéries, de microscopiques. Et qu'en fait, je suis un écosystème.
Le généticien Pierre-Henri Gouillon qui s'exprimait ainsi dans l'excellent documentaire Le ventre, notre deuxième cerveau. Patrice Debré, auteur de L'homme microbiotique aux éditions Odile Jacob. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Nous sommes des écosystèmes?
Oui, certainement, puisque, si vous voulez, nous offrons aux bactéries toute une série de particularités, on va dire, environnementales pour leur permettre de se développer. Et inversement, nous offrons nous-mêmes, à ces bactéries, un écosystème très particulier.
Vous dites dans votre livre, alors c'est assez amusant d'ailleurs, selon Freud, il y a eu, avec le développement des sciences, ça a occasionné trois grandes blessures narcissiques à l'humanité, et vous, vous en ajoutez une quatrième. Alors quelles sont les trois premières et quelle est cette quatrième blessure narcissique que vous apportez?
Mais c'est celle justement de ne pas avoir parlé des microbes et de ne pas avoir fait comprendre qu'il y avait toute cette interaction particulière. En fait, nous vivons tellement avec elles que nous sommes elles-mêmes.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu la première révolution copernicienne, l'homme n'est plus au centre de l'univers, puis ensuite la théorie de l'évolution, l'homme est un animal comme les autres, et puis la psychanalyse, l'homme plus maître complètement de ses pulsions avec un inconscient, et maintenant l'homme est une sorte d'association, est un homme chimère, et ouais, il est en partie gouverné par le peuple de bactéries qui sont dans ses entrailles. D'ailleurs, on les trouve où? On a parlé des microbiotes, principalement on les trouve où ces bactéries?
Alors on les trouve bien sûr dans l'intestin, mais on trouve aussi dans les trachées, dans les bronches, dans le vagin et sur la peau. En bref, toutes les interfaces que nous avons avec l'environnement.
Ouais. Donc dans la bouche, on en a...
Dans la bouche, le baiser nous apporte quelques bactéries.
Oui, c'est ce que vous dites. Vous allez même plus loin. Vous dites fonction vaccinale du baiser. De quelle manière on se vaccine quand on s'embrasse? Alors c'est le French kiss. Hein, là, c'est...
Absolument. Bien, à travers ces bactéries, nous sommes capables de nous immuniser contre elles et par conséquent de nous défendre contre celles qui pourraient pénétrer à nouveau.
Donc on échange des bactéries avec son partenaire quand on l'embrasse?
Mais pas seulement, nous parlons du baiser, mais simplement le serrement de main. Vous savez que Pasteur ne serrait jamais les mains. Il avait bien trop peur d'attraper quelques bactéries. D'ailleurs, quand par hasard il les avait, il avait salué quelqu'un, il allait tout de suite se laver les mains.
Des questions qui arrivent sur Internet. Est-il vrai que les bactéries contenues dans notre système digestif peuvent influencer notre consommation d'aliments en fonction de leurs besoins? Autrement dit, est-ce que on mange ce que nos bactéries ont envie de manger?
Écoutez presque. Par exemple, nous avons, les Japonais l'ont découvert, ils ont plutôt un certain types de bactéries qui leur permettent de digérer les algues. Et ceci est très vraisemblablement lié à l'alimentation très particulière qu'ils ont et auxquelles les bactéries se sont adaptées ou plutôt se sont sélectionnées.
Et il évolue tout au cours de notre vie, ce microbiote intestinal, c'est celui dont on va parler dans un premier temps, c'est le plus connu, c'est celui dont médiatiquement on entend de plus en plus parler et qui fascine de plus en plus les chercheurs.
Alors il apparaît à la naissance, en fait on naît sans bactéries et au moment de l'accouchement, différemment d'ailleurs par voie basse et par césarienne, on acquiert ces bactéries. Et puis tout au cours de l'année et de la vie bien sûr, ils sont modulés par l'alimentation, par le lait aussi pour les premiers âges.
L'environnement également, en fait tout ce que nous faisons dans notre quotidien influence.
Nous sommes nos bactéries.
Les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire que si on prend deux personnes dans la population, quel pourcentage de bactéries avons-nous
alors,
en
non,
commun
cela change d'ailleurs entre les différentes populations du monde, on commence à le découvrir de plus en plus. Il y a une sorte de polymorphisme des bactéries qui fait que l'homme est à la fois polymorphique par ses cellules et l'est aussi par les bactéries qu'il compose.
Je vous propose d'écouter une brève interview pour répondre à cette question que je vous poserai ensuite. Le microbiote a-t-il une influence sur nos comportements? C'est un chercheur, Stephen Collins, de l'université de McMaster au Canada, qui répondait à cette question dans le documentaire « Le ventre, notre deuxième cerveau ».
Une souris stérile sans aucune bactérie se comporte de façon très étrange. Elle prend des risques, elle est presque irresponsable. Quand vous mettez des bactéries dans le ventre de ces souris, leur comportement change. Elles ne prennent plus autant de risques. Elles deviennent très prudentes. Peut-être que les bactéries disent « Nous voulons survivre, donc vous avez intérêt à bien vous comporter ».
On a donc là des bactéries qui ont une influence radicale sur le comportement de souris qui sans elles seraient suicidaires et qui là, avec les bactéries que l'on injecte dans leur tube digestif, deviennent très prudentes.
Oui, on va de plus en plus loin avec ce type d'expérimentation. C'est pas complètement le fait du hasard, car on sait en particulier qu'une des hormones qui intervient sur le cerveau, la sérotonine, est pour 95%, donc la quasi-totalité, sécrétée par l'intestin. C'est un principal neuromédiateur. Et puis il y a un nerf particulier qui nous relie, qui est le nerf vague. Mais les expériences auxquelles vous faites allusion montrent que la transplantation du microbiote, donc des bactéries qui sont en nous, sont effectivement capables d'intervenir dans le comportement et de modifier tout simplement le comportement vis-à-vis du stress dans certaines conditions expérimentales, en particulier chez les souris.
Oui, donc le stress qui doit générer un comportement de peur, donc de protection, et si elles ne sont pas assez stressées, alors elles prendront trop de risques, ces souris.
Absolument.
On peut imaginer que ça fonctionne aussi comme ça pour nous les humains, un
alors,
stress
c'est toujours
trop
difficile
grand,
de faire
être...
des corrélations aussi importantes et passer... d'un petit rongeur à ce qui se passe sur l'homme. Mais c'est peut-être pour ça qu'on dit que les carottes rendent aimables si elles nourrissent un certain type de bactéries.
Oui. Mais donc on peut envisager quand même que une part de stress chez nous pourrait être en fait le fruit de bactéries qui génèrent ce stress.
Bien, on sait aujourd'hui que certains types d'individus qui ont des maladies psychiatriques, on ne trouve pas tout à fait le même type de bactéries que celles qu'on trouve chez les individus dits normaux.
Ouais.
De là à trouver cause ou conséquence, bien sûr, il y a encore un grand pas, mais c'est certainement des pistes extraordinairement importantes de recherche.
Alors, il y a aussi le microbiote de la peau. Lui, il nous sert à quoi et quelle influence a-t-il ?
Le microbiote de la peau, c'est nos odeurs. Elles sont tout à fait indispensables pour le meilleur et pour le pire, pour l'attraction, bien sûr, d'un humain vis-à-vis d'un autre, et aussi, c'est elles qui dictent aux moustiques les trajets que nous imprenons et qui font qu'ils viennent nous piquer.
Nos odeurs, notre défense aussi. Hein, la peau, c'est le rempart contre les microbes. Il y a toujours cette idée qu'il vaut mieux avoir la peau recouverte de bactéries pour éviter que les mauvaises puissent coloniser notre peau.
Absolument. Il y avait un vétérinaire comme ça qui avait regardé le comportement des chevaux et qui s'était aperçu que les chevaux se roulaient dans la poussière et se recouvraient de bactéries. C'est comme ça qu'ils se protégeaient de l'attaque d'un certain nombre de moustiques.
Il y a cette question, puisque on a nos bonnes bactéries et nos mauvaises bactéries. Quand on prend des antibiotiques, les antibiotiques ils rasent tout sans discernement. Comment se fait-il que nos bonnes bactéries se remettent d'une attaque aux antibiotiques?
C'est ce qu'on appelle la résilience, pour reprendre un terme qui a été employé de nombreuses fois. Ce qui repousse, c'est finalement à l'identique. C'est comme une forêt.
D'accord. Donc
avec des bons arbres.
Quand on prend des antibiotiques, on rase beaucoup de choses,
en tout cas les bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques qu'on prend. Et celles qui repoussent sont à nouveau l'état antérieur. Bien entendu, il ne faut pas prendre trop d'antibiotiques, puisque petit à petit, on sélectionne, et c'est un des grands problèmes aujourd'hui, on sélectionne des bactéries résistantes aux antibiotiques.
Pourquoi les bactéries ont-elles une si mauvaise image? Vous tentez quelques explications dans votre livre.
Alors, il y a effectivement différents obstacles. D'abord, le microbe fait peur. Et je le rappelais tout à l'heure en disant des chiffres, les microbes sont effectivement dangereux et responsables des maladies infectieuses, au point que à la fin presque du XXe siècle, ce qui était les dictons, c'était l'élimination potentielle des microbes comme un important facteur de vie sociale. Et puis il y a un deuxième obstacle qui est l'horreur que fait le microbe. Il y a une sorte de relation entre le puritanisme et la version culturelle, en particulier contre la pharmacopée stercorale. Je dois dire aussi que la culture des microbes, ceux qui sont en nous, est difficile et qu'il a fallu l'arrivée de nouvelles techniques, de biologie moléculaire notamment, pour arriver à en faire l'étude.
C'est-à-dire que les bactéries que nous avons dans notre tube digestif, dans nos intestins,
on a beaucoup de mal à les cultiver.
On ne peut pas les cultiver en laboratoire.
On a beaucoup de mal à les cultiver. Vous savez, elles sont habituées à des grandes profondeurs, les nôtres en l'occurrence. Ouais. Et il faut donc des techniques très particulières pour arriver à le faire. La culture est difficile. Et c'est la biologie moléculaire qui s'est emparée aujourd'hui des nouvelles techniques d'identification de ces bactéries. Et puis il y a finalement un dernier obstacle qui est celle de la culture judéo-chrétienne. Comment penser que l'homme, ce roseau pensant, est capable de s'identifier à des bactéries?
Oui, c'est ça. En fait, on refuse de considérer qu'une partie de ce que nous sommes, ce sont ces microbes, ces bactéries. Dans un instant, nous nous intéresserons aux troubles et aux pathologies liées à un déséquilibre du microbiote et puis des perspectives aussi de nouvelles thérapies. Et notre invité, évidemment, Patrice Debré, répondra aux questions que vous lui avez adressées sur la page de La Tête au Carré sur franceinter.fr.
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous en veux, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Ces petits riens, Serge Gainsbourg dans La Tête au Carré sur France Inter.
Avec obstination, les bactéries résidentes s'opposent à l'installation de nouvelles colonies de migrants. Ainsi préservent-elles leur hôte de l'intrusion de hordes dangereuses et maintiennent avec lui un équilibre souhaitable. Cet état d'équilibre est pourtant constamment remis en question et menacé par les catastrophes de la vie quotidienne qui s'abattent à tout moment sur certaines populations bactériennes.
Un nouvel extrait du documentaire Bactéries, nos amis. Patrice Debré, professeur d'immunologie, est notre invité. Il signe le livre L'homme microbiotique chez Odile Jacob. Elle est primordiale, cette notion d'équilibre, quand on considère le microbiote, Patrice Debré.
Oui, absolument. On l'a dit, c'est un écosystème en équilibre entre elle et nous et eux. Et à l'intérieur, entre les diverses populations de bactéries, encore une fois, je le redis, de virus et de champignons qui s'y trouvent.
Oui, on avait cette question, effectivement, vous rappelez, champignons, virus. La question de Raymond qui nous demande, est-ce que microbe est synonyme de bactérie? Pas tout à fait.
Non, microbe n'est pas synonyme de bactérie. Derrière le mot microbe, qui d'ailleurs a été inventé par Littré, pour Pasteur, qui le fait faire depuis le tour du monde, microbes, c'est où ce sont les bactéries, les virus et les diverses sortes de champignons.
Mmh. Alors, on parlait de ce déséquilibre. Quand survient le déséquilibre, alors là, et la liste des pathologies s'allonge de jour en jour. On parle, de jour en jour, j'en rajoute peut-être, mais d'allergies, d'asthme, beaucoup de maladies, mais même graves, hein, certains cancers. On commence à suspecter un rôle du déséquilibre du microbiote.
Oui, dans un certain nombre de maladies, peut-être une des plus curieuses d'entre elles est l'obésité, mais aussi, bien sûr, vous l'avez rappelé, le cancer, des maladies dites auto-immunes comme la sclérose en plaques ou le lupus. On remarque un déséquilibre de la flore intestinale. Alors, entre le fait expérimental, qui est de regarder et de remarquer qu'il y a ce déséquilibre et le rôle que cela peut jouer effectivement sur l'apparition de ces maladies, il y a encore une énorme distance. Et pourtant, c'est extrêmement intriguant et certainement source de réflexion pour des thérapeutiques nouvelles.
Donc là, on se rend compte qu'une évolution du microbiote peut influencer, c'est-à-dire qu'à quantité de nourriture égale ingérée, des personnes vont grossir plus ou moins en fonction de l'évolution de leur microbiote.
Ou tout du moins, on note une corrélation entre l'existence de l'obésité et des anomalies de la répartition des populations de bactéries. Peut-être ce qui est plus frappant encore est la transplantation des mêmes bactéries et de démontrer chez l'animal qu'on est capable d'induire des obèses ou au contraire des individus très maigres.
Mmh. Ah oui, ça peut aussi marcher pour
certaines souches de bactéries semblent au contraire induire la maigreur. Enfin, la troisième observation, elle est curieuse, relativement unique, mais c'est quand même la transplantation fécale chez un individu d'une femme qui était obèse et la personne qui a reçu cette transplantation est elle-même devenue obèse. Cas unique peut-être, mais tout du moins qui est intriguant.
Alors parlons deux secondes de transplantation fécale, puisque vous abordez le thème dans votre livre et puis que vous y faites référence. Romain pose cette question par internet. On entend de plus en plus parler des expériences de transplantation fécale pour soigner diverses pathologies. Où en est-on à ce jour sur des traitements qui pourraient être généralisés à tous les patients?
Vous savez que les Chinois, qui sont presque nos plus anciens médecins, avaient déjà inventé ce type de transplantation avec des soupes colorées, des soupes chatoyées qu'ils prenaient et qui avaient de nombreuses vertus, en particulier celle de guérir les diarrhées.
Est-ce qu'on peut préciser ce que sont ces transplantations fécales pour ceux qui ne connaissent pas? Allons-y, on ne va pas être écœuré.
Écoutez, c'est extrêmement simple, c'est des selles qui sont tout simplement diluées et qui sont redonnées avec dans une cuillère à cuisson, une cuillère à soupe, on va dire, enfin, ou de manière plus normale avec certains médicaments, et sont capables de transférer des bactéries, par conséquent, qui proviennent d'individus sains à des individus pathologiques.
On les réinjecte dans le tube digestif, dans les intestins.
Vous les reprenez par voie buccale. Et c'est utilisé essentiellement aujourd'hui dans quelques types d'indications, en particulier les infections à une bactérie très particulière qui s'appelle Clostridium difficile et qui, comme le nom l'indique, est très difficile à traiter.
Alors, on parlait de pathologies liées à ces déséquilibres. Il y en a une qui a été vite évoquée en deuxième partie d'émission. Vous parliez de schizophrénie, c'est-à-dire que dans certains cas, certaines maladies mentales pourrait trouver...
J'ai parlé de troubles du comportement, je crois. Je ne suis pas aventuré jusqu'à...
Alors certains le disent pour la schizophrénie, qu'en pensez-vous?
Je pense qu'on en est à l'aube d'une nouvelle exploration de toutes les maladies psychiatriques, à la recherche de nouveaux biomarqueurs, et parmi ceux-ci, très possiblement au rôle du microbiote.
Vous dites aussi quand même qu'on pourrait traiter des cas de psychopathologie, sans aller jusqu'à la schizophrénie, mais de mal-être psychologique, par, là encore, une intervention sur le microbiote.
À partir du moment où on aura démontré que telle anomalie du microbiote est susceptible de pouvoir induire une infection psychiatrique, on est à l'aube, bien sûr, de nouveaux médicaments.
Alors, je vous propose d'écouter, justement, en parlant de nouveaux médicaments, à nouveau, Stephen Collins de l'université McMaster au Canada. Il est persuadé que les découvertes faites sur le microbiote déboucheront sur de nouvelles thérapies.
Dans le futur, je ne sais pas quand, on donnera aux bébés dès leur naissance la meilleure de toutes les flores possibles, afin qu'ils soient colonisés correctement. On la donnera aussi tout au long de notre vie, particulièrement au moment de la vieillesse, pour renforcer le microbiote.
Voilà, utiliser l'intervention sur le microbiote pour se soigner. Alors là, il y a plusieurs pistes que vous explorez dans votre livre. Il y a les probiotiques.
Oui, alors le premier d'entre eux, c'est les probiotiques, c'est-à-dire la prise de micro-organismes vivants dont on pense qu'ils auraient un effet sur la santé. En fait, nous en prenons tout le temps, à travers des aliments fermentés comme le yaourt, comme la bière, le cacao, le thé, le café. On pense, et on a longtemps pensé que ça avait un rôle thérapeutique potentiel. Nous connaissons tous, par exemple, l'ultra-levure qu'on prend depuis longtemps. En réalité, mesurer et apprécier le rôle de ces bactéries qui sont ingérées reste encore un problème. Et on n'est pas assuré qu'il y a effectivement une protection par ces probiotiques.
Ouais. Fabienne nous demande par Internet, j'ai commencé il y a une semaine une cure de souche macrobiotique et j'ai décidé d'arrêter car mon ventre était énormément gonflé et les maux d'estomac encore pire. Est-ce qu'un micro-nutritionniste pourrait m'aider? Ça existe, les micro-nutritionnistes?
Alors, c'est des nutritionnistes, effectivement. Mais certains d'entre eux sont beaucoup plus compétents dans le domaine de l'alimentation que dans le domaine des prises de bactéries, que ce soit des probiotiques ou autres possibilités, les prébiotiques.
Alors, c'est quoi les prébiotiques?
Alors, les prébiotiques, ce sont en fait les sucres, et c'est ce que nous avons à travers le lait, c'est ce que la nourrice nous donnait avant, c'est ce que les laits artificiels maintenant inventés depuis Liebig et bien sûr Nestlé nous fournissent. Ces prébiotiques ont certainement un effet sur le système immunitaire, sur les villosités de l'intestin, sur en quelque sorte le biofilm que forment les bactéries. Nous nourrissons nos bactéries avec des prébiotiques, avec des sucres.
Il y a beaucoup de conditionnels, de probablement, de certainement, on le découvrira. On sent qu'on est au tout début de l'histoire.
On est au tout début et c'est cela qui est tout à fait fascinant. Et curieusement, qui n'a pas été suffisamment étudié depuis que le problème a été posé. Il faut revenir probablement au début de l'âge des découvertes des microbes, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle.
Oui, d'ailleurs, Marie vous dit sur Internet, il me semble que le rôle des bactéries chez les ruminants est étudié depuis plus longtemps que chez les humains. Est-ce vrai?
C'est vrai, les vétérinaires s'y sont mis très tôt. Et pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure ensemble, il est probable que l'homme y a échappé pendant longtemps. Mais c'est aujourd'hui une sphère considérable d'intérêt de la part des scientifiques.
Ouais. Mais vous dites, les prochaines explorations, peut-être qu'on ira, on retournera sur la Lune, peut-être qu'on ira sur Mars, on en parlait en début d'émission.
Oui, mais il fallait maintenant se concentrer sur nos intérieurs à nous et nos espaces sidéraux propres.
Oui, voilà, il y a encore des terrains inexplorés en nous. Merci Patrice Debré, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'homme microbiotique, aux éditions Odile Jacob. Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion de son émission Affaires Sensibles, avec pour titre Everest 1996, perdu sur le toit du monde.